Merci, monsieur le curé, de votre hospitalité et de votre sympathie. Chers amis, je voudrais vous dire ma joie de me retrouver parmi vous. On n'oublie pas le Valais, et encore moins les Valaisans, ce qui fait que j'ai toujours présent dans ma mémoire le souvenir de ces 5 années passées parmi vous. Ça ne doit pas vous étonner, parce que de toute façon, les Valaisans savent bien que Paris est dans la banlieue de Sion. Alors c'est un banlieusard qui vient vous parler. Je remercie les amis de Saint-François de Sales qui nous ont invités. Monsieur Vien, professeur à l'Institut de grec et d'hébreu, que certains d'entre vous ont pu entendre sur la Bible hier soir, et puis moi-même. Cette association, vous le savez, depuis 4 ans, diffuse surtout auprès du clergé officiel le courrier de Rome dont s'occupe notre ami l'abbé Duchalard. Et cette association diffuse gratuitement ces numéros de Sissi Nono, le courrier de Rome. C'est une bonne œuvre. C'était l'apostolat, je le disais hier soir, de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales faisait comme cela. Si les protestants ne venaient pas à eux, il allait aux protestants en leur diffusant le texte de ses sermons. Bien, si les prêtres, le clergé officiel ne vient pas à nous, c'est à nous de faire connaître les vérités traditionnelles par ce moyen qu'est le courrier de Rome. Alors c'est une œuvre qu'il faut soutenir, bien évidemment. J'apprenais avec plaisir hier que il allait y avoir une édition allemande du courrier de Rome et que le lancement se ferait à 17 000 exemplaires. C'est à partir du 1er novembre, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à les soutenir de votre générosité. Je vous parle d'un sujet cet après-midi dont vous avez déjà entendu parler. Il faut avouer que dans nos milieux, c'est Mgr Feulet qui, revenant des États-Unis, nous a fait découvrir ce que c'était que le Nouvel Âge. On ne le connaissait pas très bien. En France en particulier, ça ne s'était pas propagé avec autant de virulence qu'en Allemagne en particulier. Mais maintenant, on peut dire qu'il est difficile de ne pas connaître ce mouvement. Il est même impossible de faire croire qu'on n'en a jamais entendu parler. Pour peu qu'on lise un petit peu les journaux, qu'on écoute la radio, on est tout de suite confronté à ce nouveau mouvement, à cette nouvelle philosophie, et pour parler franchement, à ce qui se veut presque une nouvelle religion, le New Age. Je voudrais vous en parler sous un angle particulier cet après-midi. Dans un premier temps, vous montrer cette ampleur, bien montrer comment le mouvement se répand, même dans des domaines où on ne le soupçonnerait pas. Je me souviens, parce que j'ai entendu la cassette que Mgr Feulet avait enregistrée sur ce sujet, il donnait un peu la liste, presque le catalogue, de tous les mouvements qui étaient rattachés plus ou moins au Nouvel Âge. Je vais vous en donner d'autres, et puis nous allons ensemble, si vous voulez bien, feuilleter quelques journaux, et vous verrez que le Nouvel Âge se trouve là où on ne l'attend pas. Et puis, ce sera l'essentiel vraiment de mon propos cet après-midi. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous ces manifestations aussi extraordinaires, aussi diverses, qui se réclament ou qui ne se réclament pas, mais qui appartiennent peu ou prou au Nouvel Âge. Nous essaierons de voir quelle est la clé qui permet de comprendre pourquoi et comment surtout ces choses-là se font. Alors tout d'abord, faisons une petite enquête. Première partie, essayons de voir comment on voit le Nouvel Âge se présenter de façon ouverte ou de façon un petit peu déguisée dans la grande presse. Il y a un article, par exemple, qui est paru le 27 janvier 90 dans le Figaro Madame. C'était un des premiers articles à bien montrer toutes les activités que le Nouvel Âge essayait de couvrir. On explique vaguement l'historique, on dit dans cet article que bien sûr ce mouvement vient des États-Unis, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on donne pour la première fois tous les livres qui permettent de mieux connaître ce mouvement. On donne aussi les adresses des librairies auxquelles on peut s'adresser. On donne enfin toutes les associations qui organisent des colloques, des congrès. Personnellement, j'ai commencé mon enquête à partir de cet article-là, c'est-à-dire que j'ai écrit à toutes ces associations qui m'ont envoyé une documentation pour savoir un petit peu ce que les gens du Nouvel Âge eux-mêmes disaient de leur mouvement et comment ils se présentaient eux-mêmes. C'est comme ça que je me suis procuré un livre qui s'intitule « Le Tao de la physique » dont je vous parlerai, qui était indiqué ici. C'est comme ça que j'ai écrit à une association qui organisait un symposium à Chinon. Et ce symposium qui avait lieu le 13 avril 1990, et puis qui a été recommencé l'année suivante, qui s'intitulait « L'homme et la conscience planétaire ». C'est ainsi que j'ai vu qu'il y avait une librairie à Paris, alors là je n'y suis pas allé, mais il n'y avait pas loin de l'Institut Saint-Pédis une librairie qui s'appelle l'Espace Bleu où on trouve énormément d'ouvrages. Là, je me suis dit, vraiment, ça n'est pas un mouvement marginal, ça n'est pas un groupuscule, ça n'est pas une secte de plus, parce que les sectes, en général, réunissent un petit nombre d'adeptes. Là, on avait affaire à un mouvement d'une certaine ampleur. Et puis, j'ai vu, dans un autre magazine qui s'appelle Le Point, le 4 juin 90, donc toujours la même année, mais 6 mois après, j'ai vu un article qui s'intitulait « Les possédés du Nouvel Âge ». C'était un petit peu plus critique. Cet article était moins publicitaire. L'article du Figaro, Madame, était ouvertement favorable. Celui du Point essayait de prendre un peu de recul en disant « Oui, c'est un mouvement qui a de l'importance. Cependant, il faudrait peut-être juger de ces choses-là avec un peu de discernement, peut-être pas adhérer à tout ce qu'ils font. » Mais ça n'était pas, cependant, une étude qui mettait en garde, tant s'en faut, les lecteurs. C'était, une curiosité qu'on présentait. Mais une curiosité qu'on ne présentait pas comme un phénomène exotique. Non, en disant que c'était quelque chose qui, de plus en plus, gagnait les milieux les plus huppés, les milieux qui apparemment sont à l'abri de toutes les formes de superstition ou à l'abri de toutes les formes de manipulation des esprits. On vous dit par exemple dans cet article du 4 juin 90, le mouvement est né dans l'Ouest américain, aujourd'hui le New Age envahit la vie quotidienne, et c'est vrai, il y a un guide du Nouvel Âge, une espèce de guide Michelin de toutes les activités, de tous les restaurants, de tous les magasins, de toutes les boutiques du Nouvel Âge, je vous en parlerai. Les entreprises, oui, il y a énormément de stages qui sont organisés pour des chefs d'entreprise, pour des cadres supérieurs, et ces stages sont tout à fait le reflet, l'écho de la philosophie du Nouvel Âge. On vous disait aussi l'éducation, même l'armée. Le Nouvel Âge, une nouvelle philosophie ou une histoire de fou? C'est une question que se pose le journaliste. Autant savoir ce qu'il en est, dit-il, car cette vogue commence à atteindre la France où livres, séminaires et rencontres de ce troisième type se multiplient. Troisième article, là, toujours, je crois, dans le Figaro magazine. Là, c'était le petit guide du Nouvel Âge et on vous donnait toutes les choses qu'il fallait savoir, les activités que l'on pouvait avoir si l'on voulait vraiment entrer dans ce système. Vous parlez par exemple du film dont vous avez entendu parler, Le Grand Bleu, et de sa musique. Ici, voici ce que dit cet auteur, qui n'a aucune prévention, qui n'est absolument pas critique, il cherche à renseigner ses lecteurs. Il dit « Le Grand Bleu, film et musique, culte, on raffole des dauphins dans les milieux du Nouvel Âge ». Il vient de se créer d'ailleurs depuis 6 mois en France une association française du Nouvel Âge, AFNA, dont le logo, le symbole est le dauphin, justement. Ensuite, on vous donnait la mode New Age, ce qu'il fallait manger si on voulait avoir l'esprit New Age, les cristaux qu'il faut acheter si on veut entrer dans cet esprit-là. Il y a quantité de choses, les livres aussi. Plus inquiétant, parce que là nous entrons un petit peu plus dans le vif du sujet, ça reste un peu à la périphérie du phénomène, maintenant on s'aperçoit dans un autre article, toujours dans la grande presse, que le Nouvel Âge travaille dans ce que l'on appelait autrefois le domaine du spiritisme, c'est-à-dire la communication avec l'au-delà, avec les morts. Là, l'article se veut humoristique. On essaye de s'amuser de quelque chose dont on ne devrait pas s'amuser, parce que c'est le domaine de prédilection du démon. On ne doit pas chercher à entrer en communication ainsi avec l'au-delà. Or, l'article, qui se veut drôle, est intitulé de la façon suivante. « Ne quittez pas, les morts vous parlent. Allô, ici, l'au-delà. » Et on explique que aux États-Unis, il y a des médiums, ce que Mgr Feuillet vous a présenté sous le nom anglais, n'est-ce pas, de channel, c'est-à-dire des canaux avec lesquels, ou grâce auxquels plus exactement, on peut entrer en communication avec les défunts, avec les âmes des morts. Aux États-Unis, les médiums les plus doués vous branchent sur des extraterrestres, sur Jésus, Mahomet ou Moïse. Alors, les adeptes du Nouvel Âge l'affirmaient, voilà que les scientifiques le prouvent, ce sont de pseudo-scientifiques, ça va sans dire, il suffit d'un magnétophone ou d'un écran de télé pour entrer en contact avec les défunts. Évidemment, ce sont des marchands de papier qui écrivent cela, mais cela montre que ça intéresse énormément le public, parce que si vraiment ça ne les intéressait pas, les journalistes ne donneraient pas la peine d'écrire des articles sur ce sujet. Au début de février 91, dans un magazine féminin, je vois « La France se met au New Age ». Et là encore, on vous donne un petit peu le lexique de tout ce qu'il faut savoir si on veut parler le langage New Age. Dans une autre revue, qui elle est une revue spécialisée dans la vente par correspondance de livres et de disques, elle s'appelle cette revue « France Loisirs ». Alors là, vous avez les disques New Age, il y a les cassettes aussi que l'on propose. Ça montre, comme je vous le disais, qu'il couvre un terrain assez large. On ne peut pas du tout dire que c'est un mouvement qui ne concerne que quelques personnes, peut-être un petit peu fragiles psychiquement, ou peut-être un petit peu fragilisées spirituellement. Non, ce sont bien les gens du grand public qui sont séduits par ce genre de propagande. Une chose m'avait frappé dans cette enquête, c'est que l'on nous disait que les entreprises s'adressaient aux adeptes du New Age pour animer des sessions, pour faire des stages de formation. En France, c'est très fréquent, il y a des stages de formation professionnelle que tout le monde, plus ou moins, doit suivre. Alors, j'ai reçu une revue professionnelle qui s'appelle L'Usine Nouvelle. Et là, en 89, il y avait un article qui s'intitulait « Ces gourous qui séduisent les entreprises ». On en donnait 3. Donc voici les noms, Christian Lemoine, Daniel Léonard Blanc et Jean Kerr. Ce qui m'a frappé, c'était la description que l'on donnait de l'un d'entre eux, Daniel Léonard Blanc. Incontestablement le plus gourou des trois, d'après l'auteur de cet article. Habillé d'amples vêtements noirs, je vous dispense de me regarder, les cheveux ramenés en couette, ça c'est quelque chose que je ne peux plus me permettre, est tour à tour violent, agité ou apathique. Il dérange son auditoire, le propulse dans la cosmogonie du troisième millénaire, mêle le vaudou, le bouddhisme, l'historien Fernand Braudel et un théoricien du libéralisme libertaire aux États-Unis, Hayek. On en sort fasciné ou révolté. Et puis il y a une photo qui là m'a frappé. Tout ça, voyez-vous, je le lisais à la suite de la cassette de Mgr Feulet. Il nous avait fait découvrir ce mouvement. Moi, je me disais, oh, c'est encore une lubie des Américains, mais on ne verra pas ça en France, c'est pas possible. J'avais tort. Voici une photo, donc, dans cet article. On voit là des cadres supérieurs qui sont en train de manipuler des herbes. Et voici la légende. Chaque année, Daniel Léonard Blanc emmène des cadres dirigeants en Haïti. Au programme, le bain de chance aux 7 plantes magiques. Je vous assure que ce n'est pas un bain moussant, ce n'est pas quelque chose de simplement détergent, ou alors si c'est un détersif, c'est pour lavage de cerveau. Et peut-être même plus que cela, il faut y voir, puisqu'il est question de rites vaudous, et que ça se passe en Haïti, il faut y voir une forme d'initiation et même une forme de mise en condition de type diabolique. Ça ne peut pas être autrement. Et cela, encore une fois, ce n'est pas dans une revue ésotérique que l'on trouve ça, c'est dans une revue professionnelle. C'est la revue L'Usine Nouvelle, qui est une revue pour des cadres d'entreprise. J'en ai une autre comme ça, mais je ne vais pas trop insister parce que sinon cette enquête devient très fastidieuse. Là, c'est dans une revue professionnelle qui s'appelle Entreprise et carrière, et on vous demande, êtes-vous un manager New Age? Et il y a un article sur cela. Toujours en écrivant à ces associations, à ces maisons qui organisent des colloques, j'ai reçu un superbe dossier qui n'a pas l'air d'être quelque chose de confidentiel. C'est bien édité sur un papier glacé en quadrichromie. C'est l'entreprise stratégique. Leur but, le réseau européen des experts en programmation neurolinguistique. Vous ne savez pas trop ce que c'est que la programmation neurolinguistique. Vous vous dites que ça ne nous concerne pas. Pourtant, c'est adressé aux cadres qui veulent se développer, qui veulent s'épanouir personnellement. C'est une entreprise qui favorise la communication interne à l'intérieur des usines, à l'intérieur des bureaux. Alors, il y a là des activités dont vous avez déjà entendu parler. Développer son potentiel créatif. Il y a des choses qui semblent assez innocentes. Par exemple, vous avez une activité qu'on propose, là, la gestion optimale du temps. Comment savoir gérer son temps, comment savoir faire un bon emploi du temps, comment s'organiser dans la journée. Comment savoir prendre la parole en public. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être du New Age pour chercher à mieux maîtriser la parole en public. Ce semble tout à fait normal. Donc, ces activités ne nous inquiètent pas. On se dit, bon, c'est très bien, c'est normal. Toutes les entreprises de formation font cela. Mais il y a d'autres activités qui, elles, sont beaucoup moins innocentes et beaucoup plus suspectes. Vous avez, par exemple, une activité qui s'intitule Programmation neurolinguistique recherche avancée, deux points, revivre sereinement ses vies antérieures. Que ça signifie? Ça signifie que ces gens-là sont pour la métempsychose, la réincarnation. C'est-à-dire que nous avons eu des vies dans une vie antérieure, avant que nous ne soyons ce que nous sommes, nous avons été autre chose, et puis nous mourrons et nous deviendrons autre chose, c'est ce que les hindous croient. Il y a d'autres choses, vous avez par exemple tarot, le jeu de cartes là, programmation neurolinguistique et management. On est surpris de voir un tel mélange, le management, donc quelque chose d'assez technique, c'est réservé à des personnes qui ont certaines responsabilités, qui semblent même avoir un certain niveau intellectuel, et puis on leur propose à ces managers de s'initier au tarot. C'est curieux. il y a un autre stage, management, éthique et spiritualité. Alors, si vous voulez, voyons le détail de celui-ci. Au-delà de la mode mercantiliste et folklorique du nouvel âge californien, émergent à l'aube du XXIe siècle les prémices d'une renaissance spirituelle. Voyez-vous, ils prennent un certain recul, ils prennent une certaine distance par rapport à ce qu'ils appellent un nouvel âge californien mercantiliste et folklorique. Eux ne sont pas folkloriques, mercantilistes, on va voir s'ils ne le sont pas. Et ils disent, nous proposons quelque chose d'un petit peu plus sérieux, donc à l'aube du XXIe siècle, les prémices d'une renaissance spirituelle. L'homme reste un consommateur de sens, il a besoin de signification. Au-delà de son avidité matérialiste, il cherche donc une spiritualité. Comment, en tant que manager, se donner à soi-même et donner aux autres le sens de la mission de chaque être vivant, de l'entreprise à la personne, de l'individu à l'espèce ? Et on vous explique que là, un certain Cotten a mis au point pour vous un séminaire original. Alors écoutez bien ceci. Un séminaire original, libre de toute limitation religieuse spécifique, construit sur une mise en perspective des apports de quelques grandes traditions de connaissances avec les données plus récentes de la physique, de la psychologie et de l'école transpersonnelle en sciences humaines. Il faut peser chacune de ces expressions pour comprendre. Vous avez saisi comme moi, ce séminaire original n'a rien à voir avec celui d'Econ. C'est un séminaire où l'on s'est affranchi de toute limitation religieuse spécifique. Que ça signifie ? Ça signifie que toutes les religions, toutes les spiritualités sont admises. Il n'y a pas ici de dogme d'affirmer, libre de toute limitation religieuse spécifique. Nous qui professons une foi bien déterminée, qui est la foi catholique, eh bien nous sommes limités, spécifiquement limités, ce qui se traduit en clair borné. Eux, qui se sont affranchis de tous les dogmes, eh bien, ils ont là une religion ouverte, n'est-ce pas, à tous les apports possibles et imaginables. Sur cela, donc, on construit une mise en perspective des apports de quelques grandes traditions de connaissances. On va voir que ces apports sont surtout orientaux. Il s'agit des philosophies de l'Inde. Et l'on met ces traditions en rapport, en relation avec les données les plus récentes de la physique, il faut ici dire la physique quantique, je vous en touche un petit mot tout à l'heure, la psychologie, ça sera le sujet de notre conférence, ce qu'on appelle l'école transpersonnelle. Donc, essayez de s'affranchir de tout dogme et essayez, dans une espèce de grande synthèse, de grand syncrétisme œcuménique, arriver à concilier tout ce que les orientaux ont comme spiritualité avec les découvertes les plus récentes de la psychologie et de la physique. Quand je vous disais qu'ils ne se veulent pas folkloriques, ça je ne sais pas s'ils le sont ou pas folkloriques, parce que je ne suis pas allé à ce genre de stage, quant à dire qu'ils ne sont pas mercantilistes, alors là permettez-moi de sourire doucement. Parce que ces stages ne sont pas gratuits, évidemment, ça coûte de l'argent. Si vous avez envie de faire ce stage management, éthique et spiritualité, de 2 jours seulement, il vous en coûtera, en francs français, 5100 francs. C'est pas mal à la journée, n'est-ce pas ? Si vous êtes dans une entreprise. Si vous êtes particulier, ça sera un peu moins cher, là c'est 2135 francs. Toute taxe comprise, la TVA aussi. Mais les déjeuners, eux, ne sont pas compris. Il faut payer en plus. Je passe un petit peu, si vous vous intéressez à ces choses-là. Le stage, par exemple, sur le tarot et le management, alors là, c'est vraiment donné, puisque c'est 4500 francs si vous êtes en entreprise et 1600 francs si vous êtes en particulier. Alors, comment est-ce qu'il présente ce stage ? Évidemment, tout ça est sous un langage un petit peu aseptisé. Ce n'est pas le langage des occultistes. Il est évident que s'ils utilisaient le langage des ésotéristes, tout de suite, nous réagirions. Non, là, ça s'est présenté de façon assez neutre pour ne pas effrayer le client. Il s'agit d'une certaine Sylvie Anglade qui a mis au point pour vous un nouveau séminaire original intégrant les acquis les plus récents de la programmation neurolinguistique à une démarche symbolique, le croisement de la rigueur avec la richesse de la pensée globalisante. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? Croisement de la rigueur, c'est-à-dire justement l'esprit du manager qui, en principe, s'il veut faire des affaires, doit avoir une certaine rigueur. Et puis la richesse de la pensée globalisante, c'est toujours cette philosophie New Age, elle-même branchée sur les spiritualités orientales. Et c'est pour les dirigeants, les cadres supérieurs, qui désirent élargir leur rayonnement et leur efficacité de manager. Le charisme repose notamment sur la capacité à manier les langages symboliques. Donc si vous voulez exercer un certain charisme sur vos employés, on vous invite à mieux manier les langages symboliques et on vous dit que le tarot traditionnel est une source inépuisable d'inspiration tant à la réflexion qu'à la création de discours. Je termine alors sur le dernier stage, sur revivre sereinement ses vies antérieures. Mais vous avez compris, ces stages sont là mêlés à d'autres stages qui, eux, ne sont pas spécialement inquiétants. Il y en a un autre sur la prise de parole en public, comme je vous disais, ou le management des compétences, ou la gestion optimale du temps. Là-dessus, vous avez peut-être vous-même suivi des stages de ce genre-là. Ça n'a rien de New Age. En revanche, là, vous avez revivre sereinement ses vies antérieures. Là, c'est 4 jours en juillet. Malheureusement, c'est fini. Vous ne pourrez pas. Ce n'est pas donné, hein, je vous dis tout de suite, c'est 10 000 francs. 10 000 francs pour 4 jours. Ce séminaire de recherche et développement personnel s'adresse à tous ceux que la thématique vie antérieure interroge suffisamment. On aurait dit aussi interpelle. Pour donner l'envie de vivre l'expérience des régressions psychologiques dans l'espace-temps. Et alors, on vous explique comment ça va se passer, comment est-ce qu'il faut revenir un peu. Il est question, bien évidemment, de philosophie orientale. Je vois là la thématique des vies antérieures et du karma. Retrouver une ou plusieurs vies antérieures, les processus de guidage, se libérer de souvenirs désagréables ou d'expériences traumatisantes, accéder aux ressources les plus puissantes de ces vies antérieures, la projection de soi dans le futur. Ces choses-là, on les lisait autrefois, on les voyait dans les librairies spécialisées. Il y a toujours eu, malheureusement, des librairies occultistes, des librairies où on vend des ouvrages ésotériques. À Paris, dans le 5e arrondissement, il y en a plusieurs, rue Saint-Jacques en particulier, on le savait. Mais les gens qui tenaient ce genre de librairie, un petit peu poussiéreuse, avaient un certain profil. C'était des gens qui, sans avoir nécessairement une chouette sur l'épaule, manifestaient tout de suite à quelle famille d'esprit ils appartenaient. La grande nouveauté avec le nouvel âge, c'est que c'est parfaitement, dans un terme anglais, il faudrait dire clean, n'est-ce pas? C'est bien propre, c'est net, ça ne doit pas faire peur, ça ne doit pas effrayer. Et on doit au contraire accepter ce genre de démarche. Je poursuis ma petite enquête avant d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout cela. Quand j'ai intitulé cette conférence Recto Verso, vous voyez ce dont il s'agit. Recto, c'est la vitrine, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tout le monde peut constater. Verso, c'est la face cachée. Et de fait, le verso, c'est le verso, c'est-à-dire que derrière la vitrine, il y a ce fameux symbole, n'est-ce pas, l'air du verso. On en verra un petit aperçu dans quelques instants. Alors, non seulement il touche aux entreprises, mais il touche au domaine de l'enseignement même supérieur. On s'aperçoit qu'ils organisent des colloques, ils organisent des congrès. J'avais demandé en particulier la réclame qui avait été faite pour ce fameux symposium qui a eu lieu à Chinon. Alors, c'est intéressant, ça s'intitule « Deuxième symposium international, liberté et limite de l'homme ». Le titre plus précis, c'est « L'homme et la conscience planétaire ». Conscience planétaire, on pourrait aussi employer un synonyme, conscience cosmique. C'est un terme éminemment théilliardien. Le jésuite français Teilhard Chardin, qui revient à la mode, affectionnait ce terme de conscience cosmique. Et nous verrons que ce n'est pas un hasard. Là aussi, ne pensez pas que c'est un stage qui a lieu pour quelques illuminés, quelques hippies attardés dans un coin perdu de la France, sur le plateau du Larzac, au milieu de quelques chèvres. Et là, quand je parle de chèvres, je ne vise pas les participants à ce genre de réunion. Non, ici, c'est une réunion qui est tout à fait officielle. D'ailleurs, c'est très satisfaisant pour les Français, qui sont écrasés d'impôts, mais ils savent au moins où va leur argent, puisque c'est le ministère de la Culture et de la Communication, donc Jacques Lang, qui a sponsorisé ce genre de manifestation. Ensuite, il y a le conseil régional de la région Centre, la mairie de Chinon. Voilà où vont les sous des Français. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite publicité, dans ce dépliant? On vous dit que c'est un symposium de 5 jours. Première journée, il sera question de changement de conscience, de nouvelle vision du monde. Là, le terme que l'on pourrait employer, terme synonyme, c'est le paradigme. Il faut changer la vision du monde, une nouvelle façon de voir le monde. Deuxième journée, énergie vitale et système immunologique. Troisième journée, ça c'est intéressant, Gaïa, une entité vivante à préserver. Gaïa, c'est en grec le terme qui désigne la Terre. Et on vous dit que c'est une entité vivante, la Terre est vivante. Mais on va s'apercevoir qu'elle est plus que vivante, elle est même divine. On parle ensuite des entreprises, qui intéressent beaucoup les gens du Nouvel Âge, et on les compare tout simplement aux cathédrales, les entreprises cathédrales des temps nouveaux. Voyons juste ce qu'il y avait dans la première et la troisième journée. La première journée, voici comment elle est présentée de façon plus détaillée. L'être humain a la possibilité, dit-on, d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Toujours, n'est-ce pas, cette volonté de s'affranchir des limites de la conscience humaine. Comme si nous n'étions pas satisfaits au fond de notre condition humaine, dès lors que nous devenons adeptes du New Age, comme s'il fallait accéder à une conscience autre, supérieure. Pour cela, ne doit-il pas l'homme retrouver les énergies cosmiques et réapprendre les rythmes de la nature ? L'écoute consciente chez l'adulte de la vie qui vient, de l'enfant qui croit dans sa différence et sa créativité, et de la mort qui arrivera, permettront le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on changera de vision du monde, au lieu d'être dans une vision au fond un petit peu étroite, un petit peu limitée, un petit peu bornée, un petit peu étriquée, mesquine en un mot, il faudrait accéder à une vision totalement différente, globale, globalisante, cosmique, une nouvelle vision du monde. Ça, c'était la première journée, et je suis content, puisque je sais que certains d'entre vous, les malheureux qui ont encore la télévision, captent les chaînes françaises, se laissent enchaîner à la France de cette façon-là. Libérez-vous, n'est-ce pas? Déchaînez-vous. Cassez votre télé. Les gens qui captent la cinquième chaîne ont entendu parler certainement d'un certain Jean-Claude Bourré. N'est-ce pas? Parce que Jean-Claude Bourré s'intéresse énormément aux extraterrestres et c'est lui qui présidait la première journée, le 9 avril 90, lorsqu'il était question justement de changer de conscience, de nouvelle vision du monde. J'espère que vous n'aurez pas une nouvelle vision du monde, mais je souhaite tout de même que vous ayez, lorsque vous regardez la télévision, une nouvelle vision de Jean-Claude Bourré. Maintenant, vous êtes avertis. Et un Valaisan averti en vaut 2 ou 3 ou 4, au moins. Troisième journée, il y avait Gaïa, une entité vivante à préserver. Alors là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? La Terre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Mgr Felet l'avait bien montré. Les écologistes sont très souvent récupérés par le New Age. La Terre est présentée ici comme une entité intelligente et vivante. On connaît les dangers irrémédiables qu'elle court dans quelques prochaines décennies. Alors il faut essayer de rendre un culte à la Terre. On verra dans un instant jusqu'où ça va. Je vous donne les noms de quelques personnalités qui ont apporté leur soutien à ce colloque. Il y a le président de Solidarność, qui est devenu président de la Pologne depuis, Lech Wałęsa. Votre invitation m'a fait un grand honneur. La situation en Pologne change. Tout cela m'empêche donc de venir à votre symposium. Je tiens cependant à vous assurer de mon plein soutien à votre lettre pour les droits de l'homme. Vous avez le danseur passé à l'islam, d'ailleurs, Maurice Béjart. Ce sujet de réflexion et l'extraordinaire question qu'il sous-entend pour le devenir de l'homme mérite amplement l'importante manifestation dont vous êtes les artisans. Et il y en a d'autres comme ça. Mais il est bon de savoir donc, que ce n'est pas un mouvement marginal, que ça n'intéresse pas un groupuscule. C'est organisé, c'est patronné par des autorités, et puis il y a des personnalités qui viennent apporter leur soutien. Dernière manifestation dont je vous parlerai, celle qui avait lieu à Strasbourg, les 19 et 23 août 90, au palais de l'université. Là encore, il bénéficie d'un comité de patronage qui n'est pas médiocre. Et puis c'est toujours intéressant pour nous, Français, de savoir quand même où vont nos impôts. Cette fois-ci, c'était le CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, qui contribuer à ce colloque. Ce colloque s'intitulait « Vers le troisième millénaire, ancienne tradition et nouvelle science de la conscience ». Vous voyez, on revient toujours à cela, ancienne tradition, donc toutes les traditions d'une espèce de religion mondiale, et puis nouvelle science de la conscience, c'est-à-dire une nouvelle façon d'aborder l'âme humaine, une nouvelle façon de sonder la conscience de chacun. Voici le petit chapeau introductif, la façon dont on présentait ce symposium. 10 ans nous séparent du troisième millénaire, ils doivent être employés à le préparer, ce millénaire. Ce congrès sera le pont qui mène à la nouvelle renaissance. Et de fait, le logo de cette réunion est une forme de pont. De pont ou d'arche, d'arche ou d'arc, et d'arc en ciel, bien sûr. N'est-ce pas, le symbole de l'arc-en-ciel, qui est le symbole New Age par excellence, c'est cela. C'est une nouvelle alliance que l'on propose. Ce n'est pas l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance dont nous parlait M. Vien hier soir, l'alliance qui se trouve dans la Bible, l'alliance de Dieu et du peuple élu. Non, 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 non. Ici, c'est une nouvelle alliance qui n'est pas le Nouveau Testament. De quoi s'agit-il ? D'établir un pont pour aller à la nouvelle renaissance, et on vous explique. Le vieux monde est en état de crise généralisée, économique, politique, scientifique, morale, crise des valeurs. Déjà émerge un monde nouveau, celui du Nouvel Âge, grâce au mouvement transpersonnel. Alors c'est ce que je vais vous expliquer dans la deuxième partie de ma conférence, ce que c'est que ce mouvement transpersonnel. Et ce nouveau monde qui est en train d'émerger, comment se manifeste-t-il? Quelles sont ses caractéristiques? Alors d'abord, jonction, coordination, si vous voulez, entre la science, la nouvelle psychologie, la nouvelle physique, et les anciennes traditions et mystiques. Donc science moderne et conscience traditionnelle, entre guillemets. Le changement aussi de paradigme, c'est-à-dire de modèle, on passe du matérialisme à la conscience énergie. Tout ça, c'est le vocabulaire qu'affectionnait le père Teilhard de Chardin. Ensuite, on a dans ce nouvel âge, on a le sens de la globalité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on voit émerger une nouvelle conscience, conscience planétaire. L'entraide humaine et internationale. Ah oui, l'entraide humaine, c'est intéressant ici de voir ce qu'ils entendent par entraide humaine. Ce n'est pas la charité comme nous pourrions le croire. Entraide humaine et internationale, pourquoi? Pour échapper, c'est-à-dire ici, pour s'affranchir et même s'extraire, de quoi? Des égoïsmes nationaux, des fanatismes religieux et sectaires, et pour échapper à la violence et à la guerre. Ce sont tous les mythes humanitaires, pacifistes, n'est-ce pas, qui sont véhiculés à l'ONU depuis quelques décennies. Donc, c'est le mondialisme, n'est-ce pas, que l'on voit poindre ici. S'échapper, n'est-ce pas, des égoïsmes nationaux et des fanatismes religieux et sectaires. Évidemment, lorsqu'on sera dans une religion syncrétiste, lorsqu'on aura fait la synthèse de tous les courants religieux, il n'y aura plus de vision limitée, bornée, étriquée au plan religieux. On sera là dans une conscience totale, planétaire, cosmique, qui nous mettra à l'abri, c'est ce qu'ils croient, des fanatismes religieux. Il faut savoir que les fanatismes religieux, évidemment, c'est nous, bien sûr. Je suis un fanatique, vous êtes des fanatiques, nous sommes des fanatiques, pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a croyance en un dogme chez nous. Ce que nous disait d'ailleurs hier soir M. Vien, nous croyons en une révélation, il y a un Christ, n'est-ce pas ? Il y a le Fils de Dieu qui est venu et qui nous a apporté la révélation. Et comme nous y croyons, ben nous sommes fanatiques. On vous explique, et je termine sur cela, que l'on va pouvoir, grâce à ce nouvel âge, accéder aux états supérieurs de conscience et à la spiritualité. Enfin, on va sortir d'un matérialisme et arriver à des états supérieurs de conscience. On verra ça dans une seconde. Et ensuite vient une espèce de catalogue, d'inventaire fantastique de toutes les traditions religieuses qui vont être récupérées, synthétisées dans ce nouveau mouvement. Alors on vous parle bien sûr de la mystique chrétienne, mais aussi du bouddhisme, du zen, du yoga, du soufisme, hara, chant harmonique, rêve lucide, voyage aux confins de la mort, situation paroxystique, marche sur le feu, transe, stage hors limite, etc. Tout cela va permettre, n'est-ce pas, d'accéder au spirituel, en s'affranchissant des bornes que les dogmes imposent aux esprits limités que nous sommes. Et j'ai terminé mon enquête avec le catalogue des éditions du New Age. Ça s'appelle « L'âge du Verseau ». C'est le catalogue 90-91-90-91 que j'ai sous les yeux. Vous avez des livres alors en pagaille. Sagesse des sages. Là, c'est un livre que j'ai lu qui fait la synthèse entre la physique quantique et le taoïsme, n'est-ce pas ? Vous avez un livre dont vous avez certainement entendu parler qui s'intitule Chanel, les médiums du nouvel âge. C'est fait par un journaliste, Éric Pigani, dont nous parlerons tout à l'heure. Il y a ce que je vous avais dit aussi, le guide du nouvel âge. Là, c'est pour les connaisseurs, pour les amateurs, pour les gourmets, c'est le Goemio, c'est le guide Michelin de la gastronomie New Age, qui n'est pas d'ailleurs assez satisfaisante. Le catalogue se poursuit. Vous avez des livres sur les messages de l'après-vie, donc comment toujours par les médiums, par le spiritisme, n'est-ce pas, à entrer en relation avec les morts. Il y a un livre d'ailleurs qui s'intitule « Expérience vécue de la survie après la mort ». Vous avez un livre qui doit être fascinant, je n'ai pas lu, on ne peut pas tout lire, « La médecine druidique ». Là, je ne sais pas si les médecins vous reçoivent en chemise de nuit avec une serpe à la main et du hou dans les cheveux. Je ne sais pas. Il y a d'autres choses sur la vie énergie. Comment piloter sa vie en champion. Ça, c'est trop fort pour moi. Je n'ai pas de permis de conduire. Retrouvez vous-même vos vies antérieures par Bernard Raquin. C'est un psychanalyste, tiens, comme par hasard. Et puis alors, il y a des allusions, enfin plus qu'explicites, à l'Orient. Je vois Krishnamurti, sa vie, son œuvre, et des choses sur les extraterrestres aussi. Donc on ne peut pas dire que ce soit un mouvement qui est destiné à disparaître. Il a pris une telle importance, il est actuellement dans tant de domaines, il couvre, n'est-ce pas, tellement d'activités qu'on ne peut pas se dire c'est quelque chose de minime. Je sais bien que, un petit peu sceptique, un peu dubitatif dans un premier temps, lorsqu'on entend parler de ces sectes qui viennent des États-Unis, on se dit, ce que je me suis dit moi-même, bon, ça va tenir un temps, mais ça disparaîtra. Non, là, il faut être lucide et réaliste. On ne peut pas se leurrer, on ne peut pas s'illusionner, encore moins s'aveugler en disant c'est quelque chose qui n'est qu'une mode. Parce qu'une mode qui a autant de moyens à sa disposition risque bien de durer. Le livre dont je vous parlais à l'instant, l'ouvrage de ce journaliste américain, français, Éric Pigani, donne pour l'année dernière les chiffres de l'édition New Age, puisqu'il y a énormément d'éditeurs New Age aux États-Unis, et il le donne ensuite pour la France. Il explique, avant de citer ces chiffres, que c'est en 75-75 que les gens du Nouvel Âge ont reçu une caution fantastique de la part de certains intellectuels, trois scientifiques en particulier, dont le dernier ne vous est pas inconnu parce que c'est un livre qui est paru en livre de poche et que tout le monde a plus ou moins vu, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Le premier livre est celui que je vous ai cité de ce physicien, spécialiste de la physique quantique, Fritschhoff Capra, avec le livre donc, « Le Tao de la physique ». Le deuxième livre, c'est celui dont je vais vous parler et que j'ai apporté ici, c'est celui de Stanislas Grof, un psychanalyste, qui s'intitule « Les nouvelles dimensions de la conscience ». Et le troisième dont vous avez entendu parler, c'est celui du docteur Raymond Moody, « La vie après la vie », où il était question justement de ces expériences un peu limites de gens qui disaient avoir entreaperçu ce qu'il y avait au-delà et en être revenu et pouvoir raconter ce qui s'était passé, ce qui est évidemment faux. Trois livres fondamentaux d'Ipigani qui allaient officialiser et donner pignon sur rue aux utopies déclarées des hippies et des mystiques idéalistes des premiers temps. La matière n'est qu'illusion, la mort est morte, l'esprit est tout puissant. C'est un style un petit peu allégorique que celui de ce journaliste. Mais il veut montrer par là qu'ils avaient reçu une caution extrêmement importante. Voici les chiffres alors. Aux États-Unis, une revue disait en 88... Le New Age est toujours aussi brillant. Il y consacrait donc les deux tiers de son numéro. Et voici la preuve. Succès croissant de la vingtaine de magazines spécialisés, nombre impressionnant de livres, plus de 18 000 titres disponibles sur le marché, produits par 1 600 éditeurs, avec un rythme de parution constant, c'est-à-dire entre 20 et 50 nouveautés par semaine. Mais là, ça n'est plus un phénomène de mode, ça n'est plus... Non, c'est du pilonnage, c'est du matraquage. Vous comprenez bien que s'il y a 20 à 50 nouveautés par semaine sur le marché, ça n'est plus un phénomène qui risque de disparaître. Pour la France, Pigani dit comment ça s'est passé. D'abord, ça a été par les stages de développement personnel. On a essayé d'expliquer aux gens qu'ils se sentaient mal dans leur peau, qu'ils avaient besoin d'accéder à un certain épanouissement, qu'il fallait qu'ils se développent personnellement. Et par le biais de magazines spécialisés, une multitude de stages, cours, conférences, séminaires, groupes ont proposé leurs services dans les domaines les plus divers. Le chant, le travail sur les chakras, la gestion du sommeil, la lecture psychique, etc. Après ce développement personnel, donc il ne visait que des individus, on s'est attaqué aux entreprises. Et toutes les citations que je vous donne sont tirées d'ouvrages non critiques, n'est-ce pas ? Je ne fais parler que les gens du New Age. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Ils se sont donc attaqués aux entreprises. Les entreprises ont été touchées, ont balayé le modèle unique de l'entrepreneur classique. Le leader d'aujourd'hui, gagneur, risqueur, doit affirmer sa personnalité par un réétalonnement permanent, moral et physique, afin de résister aux pressions de l'environnement et autres chocs psychologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour les cadres stressés, certains groupes proposent des stages de découverte des capacités du cerveau cerveau droit, des techniques de mobilisation des facultés mentales, des psychodrames, la marche sur le feu, on en a déjà entendu parler, l'escalade de l'Himalaya, le saut dans le vide, vous savez, le problème des élastiques. Et après cela, il y a eu des publicités. On vous donne par exemple une publicité extrêmement New Age, c'était... Bien sûr, personne ici ne fume, mais c'était celle des Gauloises blondes. Moi, je n'ai pas vu ce spot publicitaire, mais voici comment il est décrit. Des hommes et des femmes, tous de blanc vêtus, cheveux au vent, le regard et le pas décidés sont en marche vers l'avenir dans de superbes et fantasmagoriques paysages. Ils sont les nouveaux nomades du désert, le nouveau peuple élu. Et oui, il y a un nouveau peuple élu, une nouvelle alliance. C'est Pigani, c'est un New Ager qui parle, ça n'est pas moi. Donc ils savent qu'ils ont produit des publicités de ce type-là. Et puis il y a les éditeurs. Alors les éditeurs français sont en particulier les éditions du Souffle d'Or, qui font à la fois des livres et des disques de musique New Age. Premier groupe français à s'être spécialisé dans le mouvement. Ils ont publié quelques traductions de livres de Chanel, c'est-à-dire de médiums qui disent comment ils ont rencontré Jésus, Bouddha, Mahomet dans un monde spirituel. Et puis alors il y a des collections qui sont des collections non pas d'éditeurs confidentiels mais de grandes maisons d'édition extrêmement connues. Par exemple, vous avez chez l'éditeur Albin Michel. C'est l'éditeur qui avait fait paraître Lettres ouvertes aux catholiques perplexes. Il aurait mieux fait de rester dans ce genre de publication. Malheureusement, il s'est orienté vers d'autres genres de livres. Il s'est édité dans la collection Spiritualité vivante ou Question 2. Ce sont deux collections chez Albin Michel. Vous avez les éditions Bellefond, les Presses de la Cité, et puis alors, extrêmement connues, les éditions J'ai lu. Cette collection de poche qu'on trouve dans tous les kiosques de gare, la collection J'ai lu a l'édition J'ai lu a une collection New Age. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, si vous voulez. Vous avez entendu parler cet été de l'ouvrage de Jean Guiton, Dieu et la science. Publié par Guiton, donc l'académicien, celui qui était venu, vous vous souvenez peut-être, deux jours avant les sacres pour empêcher Monseigneur de faire cela. Moi, je l'avais reçu, donc je me souviens bien. Il faut avoir de la mémoire, ou sinon de la mémoire, un peu de rancune. Le brave Guiton fait paraître cet ouvrage « Dieu et la science ». Bon, il a été accusé de plagiat, c'est-à-dire qu'il avait, s'il y a des collégiens ici, il dirait pompé, piqué, dans d'autres livres. Et moi, je me suis dit, parce que évidemment, c'est mon métier de voir, n'est-ce pas, les étudiants qui pompent dans d'autres ouvrages pour faire leur dissertation, je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans quel ouvrage il a bien pu pomper. Et on en citait deux ou trois. Alors, il y en a un qui est d'un physicien américain, là, c'est intéressant sans plus. Et puis il y en avait un autre, c'est un journaliste américain. Je vais dans une librairie, j'achète le livre, et je dis, mais enfin, où est-ce que c'est, quelle collection? Et on me dit, c'est la collection J'ai lu, et c'est J'ai lu New Age. Et vous verrez, bientôt, j'essaierai de faire un petit article, peut-être pour Fidélitaire, sur Guiton, pour vous montrer que Guiton, c'est une version douce ou soft, si vous voulez, du New Age, avec l'enseignement de Bergson, le philosophe français, et surtout de Teilhard Chardin. Ils sont allés chercher un vieil académicien nonagénaire pour parler du Nouvel Âge. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Le Nouvel Âge a au moins 90 ans, c'est intéressant. Et il faudra d'ailleurs quand même l'épingler, ce bon Guiton, parce que c'est pas possible. D'abord, c'est pas bien de copier, il faut jamais copier. Et puis ensuite, il vaut mieux dire quelles sont ses sources. Or, quand on lit l'ouvrage, ce que j'ai fait pendant l'été, quand on lit l'ouvrage, il n'est jamais question du Nouvel Âge. Tout est en filigrane. C'est entre les lignes. C'est toujours, justement, il y a le recto officiel et puis verso. Derrière, si on retourne, on s'aperçoit que le Nouvel Âge est là. Et de fait, il est complètement imprégné, imbibé de physique quantique. Si j'ai le temps de faire cet article, vous pourrez le lire. Alors, je crois que nous avons à peu près fait un tour d'horizon. de ce phénomène. Dans cette première partie, je m'efforçais donc de décrire le phénomène. Maintenant, on va essayer un petit peu d'expliquer. Avant de passer à cette phase explicative, et pour en finir avec cette phase descriptive, je vous donne là, comme ça, sans explication, parce que je crois que c'est assez clair par tout ce qui précède, je vous donne quelques citations, l'une tirée de, une série de citations tirées de ce guide du Nouvel Âge. Vous verrez alors dans quelle atmosphère on se déplace, dans quelle ambiance on se situe. On vous explique, l'homme et la femme du Nouvel Âge, c'est une espèce de charte, n'est-ce pas? L'homme et la femme du Nouvel Âge proposent une nouvelle alliance avec la nature, avec un grand N, n'est-ce pas? Une nouvelle alliance. L'homme et la femme du Nouvel Âge respectent la terre comme un être vivant. L'homme et la femme du Nouvel Âge se sentent constamment en chemin. L'homme et la femme du Nouvel Âge se savent participants de la conscience cosmique. C'est un résumé de ce que nous venons de voir. Est parue, donc, je vous disais, une petite revue qui se veut l'organe de l'Association française du Nouvel Âge depuis 6 mois. Alors voici l'espèce de déclaration des droits de l'homme et de la femme du Nouvel Âge. Je vous en donne quelques extraits simplement. Qu'est-ce que c'est qu'être Nouvel Âge? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la mentalité New Age? C'est se remettre en cause régulièrement, se former en permanence, être curieux, ouvert d'esprit, souple, flexible et créer l'avenir du monde en se changeant soi-même. Vous voyez ce qu'il y a bien sûr derrière cela. Vous voyez le recto, mais vous voyez aussi le verso, n'est-ce pas? Être souple, c'est-à-dire ne pas être rigide, être flexible, c'est-à-dire être assez malléable et même perméable. C'est-à-dire, en gros, n'avoir aucun dogme, être prêt à tout recevoir, tout accepter, n'est-ce pas? Ensuite, on vous dit que être Nouvel Âge, c'est respecter la Terre comme un être vivant et bâtir une nouvelle alliance avec la nature, en pensant le monde comme un grand village planétaire. Il n'y a plus de nations, il n'y a plus de pays, c'est du mondialisme. On vous dit aussi que c'est réunifier la science et la conscience, donc réconcilier les traditions orientales, les valeurs ancestrales avec les projets technologiques. On vous dit aussi que c'est, oh, terminons par ça si vous voulez, être New Age, ce n'est pas simplement faire, avoir, pouvoir, devoir ou paraître, c'est avant tout être. Ça, c'est le dernier mot, c'est de l'intox pur, chimiquement pur, n'est-ce pas? Être New Age, ça n'est pas faire, avoir, pouvoir, c'est être. Comme ça ne veut rien dire, c'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est de la littérature, mais ça n'est pas de la philosophie. C'est infra-rationnel. J'en arrive à ma deuxième partie avec une transition. Vous savez qu'un livre est paru l'année dernière, qui est dû à un prêtre français qui n'est pas traditionnel, donc qui a un peu toutes les déformations que l'on a dans les milieux progressistes, en particulier qui est assez œcuméniste, c'est le chanoine Vernet. Son ouvrage est intéressant au début parce qu'il y a une bonne documentation, il montre bien toute la filiation ésotérique, tous les antécédents occultistes du mouvement New Age, mais après, alors, il est un petit peu faible parce qu'il est très indulgent avec Teilhard de Chardin, et puis il dit que c'est une chance pour l'Église, que ce mouvement New Age, parce que c'est un défi, que ça va nous permettre de réfléchir encore un peu plus, un peu mieux. Enfin, non, c'est pas un défi, c'est un danger, c'est autre chose. Mais il dit une chose qui, elle, est juste. Lorsque il parle de ce mouvement, et il dit qu'au fond, leur but, et c'est maintenant qu'il faut essayer de voir quel est leur but, qu'est-ce qu'ils veulent faire, on le devine, on le pressent, on le subodore, mais maintenant il faudrait quand même pouvoir mettre le doigt dessus, savoir exactement ce qu'ils veulent. Le terme exact de leur ambition, c'est celui-ci, le changement de paradigme, c'est-à-dire changer de modèle, changer d'exemple. On a vécu sur un modèle ancien, il faudrait maintenant vivre sur un modèle nouveau. Un nouveau paradigme, dit Vernette, est une nouvelle manière de voir les choses, une façon nouvelle de penser les vieux problèmes. Et il se pose la question que nous allons nous poser nous-mêmes, comment s'opère ce changement de modèle? Comment est-ce qu'on peut substituer un modèle à un autre? Ce changement s'opère, dit Vernette, par un élargissement de la conscience. Voyez cette conscience que les gens du New Age trouvent extrêmement limitée, extrêmement étroite et triquée, il va falloir l'élargir à une dimension cosmique. Et comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à étendre les capacités, n'est-ce pas, de sa conscience? Eh bien, par quantité de techniques. Il y a des techniques comme le yoga, comme certaines façons de méditer en Orient. Il y a aussi certaines drogues qui permettent cela, certains psychotoniques en particulier, qui permettent de modifier, d'altérer la conscience. D'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent, n'est-ce pas, que nous soyons dans un état de conscience altéré, parce que l'état de conscience normal pour eux est beaucoup trop limité. Ça ne va pas. On n'est pas satisfait de cela, il faut accéder à autre chose. Le jeune Vernette dit, cette extension des capacités du système nerveux et du cerveau, il est décrit par les gens du New Age de la façon suivante, c'est un peu comme si on s'équipait d'un sonar, d'un radar et de puissantes lentilles. Littéralement, le cerveau entreprend une transformation accélérée. Il n'est pas étonnant que ces changements de conscience soient vécus comme un éveil, une libération. Des millions d'individus s'aperçoivent en effet qu'ils ont en eux un centre plein de santé, c'est un New Ager qui parle ici, les ressources pour composer avec le stress, pour innover, et enfin qu'ils ont des amis partout, ayant trouvé au cœur d'eux-mêmes force et santé, ceux qui ont appris à avoir confiance en eux ont tendance à avoir davantage confiance dans les autres. Ça, c'est une journaliste américaine qui dit ces choses sur le New Age. J'entre dans ma deuxième partie, qui sera peut-être un petit peu plus dense, mais plus courte. Merci de ne pas avoir soupiré de soulagement. Mais peut-être que vous dormez tous, je vous réveillerai à la fin. Ce phénomène du New Age, bien sûr, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre. On ne sait pas très bien comment l'approcher pour arriver à savoir ce qu'il y a vraiment au fond. Alors je me suis personnellement proposé une clé qui nous a été fournie en 1905 par Saint Pie X. Saint Pie X, dans son encyclique contre le modernisme, Pascendi, explique cette nouvelle religion par un mouvement en deux temps. Il dit que les modernistes, dans une période, dans une phase négative, cherchent à ruiner l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'agnosticisme et qu'on peut aussi appeler l'anti-intellectualisme. Ils disent que l'intelligence ne permet pas, par exemple, de connaître Dieu. Ils disent qu'il faut se méfier du discours rationnel. Ça, c'est très bergsonien. Bergson était comme cela. Bergson ne voulait pas que l'on se fie à l'intelligence. Il voulait plutôt qu'on s'en méfie. Et puis, il y a une deuxième phase qui est la phase positive, constructive, celle que Saint Pie X a appelée l'immanence vitale. Si l'intelligence ne sert à rien, ça n'est pas du côté de l'intelligence qu'il va falloir chercher à expliquer le phénomène religieux. Le phénomène religieux ne doit pas être rapporté à l'intelligence. En clair, il faut dire que la foi ne repose pas sur l'intelligence. Et ça, c'est contre, bien sûr, le Concile Vatican I. Les modernistes sont contre le Concile Vatican I là-dessus. Et sur d'autres choses encore. Ils disent, si l'on ne peut pas raccrocher la vérité révélée à l'intelligence, si notre intelligence n'est pas faite pour assentir à cette vérité révélée, si l'on ne peut pas dire que la foi, la révélation nous sont transmises si elles ne nous viennent pas par l'enseignement ex auditu, et si elles ne viennent pas ensuite, éclairer notre intelligence. Alors, d'où vient la foi? D'où vient la révélation? De l'intérieur. Ça n'est pas une révélation extérieure, ça n'est pas Dieu qui se révèle aux hommes, c'est de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'immanence vitale. Ça signifie que nous nous révélons à nous-mêmes ces vérités auxquelles nous voulons bien croire. Nous n'avons pas donc à suivre, encore moins nous n'avons pas à subir une révélation extérieure, nous n'avons pas à obéir, à nous plier à une révélation, à des commandements que Dieu nous a fait connaître. Non, c'est de nous-mêmes, de notre propre fond, que viennent les vérités auxquelles nous allons bien vouloir consentir. C'est évidemment un changement de perspective totale. La foi, donc, n'est plus quelque chose d'objectif. Il n'y a plus de dogme objectif auquel nous avons tous à croire. Non, non. Il y a simplement un sentiment religieux, c'est-à-dire, au fond, une religiosité qui vient de l'intérieur. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut appliquer cette clé à ce phénomène qu'on appelle le Nouvel Âge? J'y étais invité par une déclaration de l'auteur dont nous allons parler, Stanislas Grof. Sa déclaration est la suivante, on en a déjà eu un petit aperçu dans la première partie. Il faut, dit-il, à la page 251 de cet ouvrage, Les Nouvelles Dimensions de la Conscience, il dit, il faut établir une distinction entre les croyances religieuses dogmatiques et bornées des religions officielles et la sagesse profonde des grandes philosophies spirituelles et traditions mystiques. Donc, pour lui, il y a une distinction, même une espèce de séparation, parce qu'un divorce. Il y a les religions dogmatiques et bornées, et puis il y a la sagesse profonde des grandes philosophies spirituelles, donc qui ne sont pas dogmatiques et qui ne sont pas bornées. Alors il dit ce que sont ces grandes philosophies. Ce sont les différents systèmes de yoga, le shivaïsme du Cachemire, le vajrayana tibétain, le zen, le mysticisme chrétien, mais enfin vous imaginez de quel mysticisme il s'agit, la kabbale, le soufisme et certaines formes de gnosticisme. Alors, un tel rendez-vous de fausse religion m'a fait dire qu'au fond, on pouvait, je crois, appliquer la clé que Saint Pie X nous avait donnée au début du siècle pour ouvrir ce phénomène religieux et essayer de voir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur du New Age. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, Saint Pie X a défini le modernisme comme le rendez-vous, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Cette opposition au dogme et cette référence à un syncrétisme religieux fait penser à l'analyse du modernisme faite au début du siècle par Saint Pie X. N'y aurait-il pas là un principe d'explication applicable à ce vaste fourre-tout que semble être à première vue le New Age ? Pachandi considère que le modernisme, rendez-vous de toutes les hérésies, procède en deux temps, comme je vous le disais. D'abord, donc, de façon négative, en niant la capacité de l'intelligence à connaître Dieu, et ensuite de façon positive, en affirmant qu'il n'y a pas de révélation extérieure, mais que la religion naturelle ou surnaturelle a sa source en l'homme. C'est ce qu'on appelle l'immanence vitale. J'ai cherché dans le livre de Stanislas Grof et je me suis dit, mais enfin, est-ce que je ne fais quand même pas fausse route? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Après tout, Saint Pie X vise le modernisme, qui est un mouvement particulier. Est-ce que ce n'est pas un peu abusif? Je dois avouer que Stanislas Grof m'a, ce porte-parole du Nouvel Âge, m'a encouragé, et je l'en remercie. Il m'a encouragé à poursuivre, à persévérer dans cette voie. En effet, j'ai trouvé à la page 255 la déclaration suivante, qui montrait bien que pour les gens du Nouvel Âge, il n'y a pas bien sûr de révélation extérieure, que tout vient de l'homme, que c'est bien lui qui doit créer sa propre religion, qu'il n'a pas à la recevoir de Dieu, qui ne se révèle pas au fond. Les religions officielles, dit Grof, prône en règle générale des concepts de Dieu dans lesquels la divinité est une force extérieure aux êtres humains, qu'il convient de contacter, cette force, n'est-ce pas, il faut la contacter par l'intermédiaire de l'Église et du clergé. Le lieu privilégié pour cette prise de contact est l'Église, le bâtiment, n'est-ce pas, où nous sommes. En revanche, la spiritualité révélée par le Nouvel Âge, dans ce processus d'auto-exploration dont je vous parlerai dans un instant, cette spiritualité révélée dans le processus d'auto-exploration perçoit Dieu comme étant l'étincelle divine présente en chacun d'entre nous. Donc d'un côté, les religions officielles, ici c'est surtout le catholicisme bien sûr qui est visé, qui voit Dieu comme un être extérieur et supérieur à nous. Et puis des intermédiaires entre Dieu et nous, l'Église, le clergé, qui nous permettent de recevoir les grâces de Dieu. Pour la spiritualité New Age, il n'y a pas besoin de clergé. Nous sommes ainsi, messieurs, mis en chômage technique par le New Age. On n'a pas besoin du tout de prêtres, il n'y a même pas besoin d'église. Non, on est en prise directe, on est branché là, sur Dieu. Gare au survoltage, bien évidemment. Ici, l'individu utilise diverses techniques transpersonnelles, je vous expliquerai ce que c'est. Il faut donc un accès direct. Ça doit permettre d'entrer directement avec Dieu. Et, alors il le dit lui-même, ces diverses techniques dont on va parler favorisent un accès empirique, direct, aux réalités et il découvre l'homme, sa propre divinité. Alors là, je me suis dit, je crois qu'on est sur la bonne voie. Dans une pratique spirituelle de ce temple, c'est le corps et la nature qui remplissent la fonction de temple ou d'église, enfin de lieu de culte. Il n'y a plus besoin de lieu de culte, il n'y a plus besoin de clergé. Non, on est directement branché sur Dieu et on passera directement, on sera en relation directe avec Dieu par son corps et par la nature, tout simplement. Ça montre, si vous voulez, bien sûr, l'immanence vitale, la deuxième phase, la phase positive du New Age. Mais est-ce qu'il y a une phase négative? Est-ce qu'ils sont anti-intellectualistes? Est-ce qu'ils se méfient, comme Bergson, comme Teilhard de Chardin, est-ce qu'ils se méfient de l'intelligence? Est-ce qu'ils ne veulent pas de l'intelligence comme faculté capable de connaître Dieu et capable de comprendre ce que Dieu nous a révélé? Faculté élevée, surélevée par la grâce, c'est entendu, mais faculté intellectuelle néanmoins. Eh bien oui, c'est certain. Toutes les techniques que nous allons voir maintenant, qui sont employées par le New Age, ont pour but de court-circuiter le fonctionnement normal de l'intelligence. Lorsque vous avez appris le catéchisme, votre curé ne vous a pas mis dans un état de transe chamanique. Je veux dire par là que pour accéder au divin, il ne vous a pas transformé en derviche tourneur. Il ne vous a pas dit, on va essayer de se mettre dans un état psychédélique et comme ça, on communiera avec Dieu. Je ne crois pas que ce soit les méthodes employées ici. Non, merci. Alors, qu'est-ce que votre curé a fait? Il a tout simplement fait appel à votre intelligence, à votre mémoire, à votre faculté de raisonnement et de retenir aussi. Vous avez été obligé d'apprendre des choses, mais on vous les expliquait ces choses. On vous disait, voilà, il y a des choses bien sûr qui dépassent notre intelligence, il y a des mystères, mais on vous disait, voilà, comment est-ce qu'on peut approcher ce mystère? On vous donnait des comparaisons, des analogies pour essayer un petit peu de saisir ce que ça pouvait être, un peu que le mystère de la Sainte Trinité, sans jamais bien sûr le percer, sans jamais l'épuiser, mais on arrivait à le cerner, on arrivait à avoir une certaine intelligence de ces choses-là. On vous a parlé de l'Eucharistie, on vous a parlé, surtout pour ceux qui ont fait des cours de catéchisme pour adultes, on a parlé de transsubstantiation, on a essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était que ces choses-là. Quand il y a eu cette grande bagarre autour du consubstantiel, on vous a expliqué un petit peu pourquoi est-ce qu'il fallait se battre là-dessus. Bien, on a fait appel à votre intelligence. Pour les gens du Nouvel Âge, Ce n'est pas ça. Comme il n'y a pas de révélation objective, il n'y a rien à apprendre de l'extérieur, il y a tout à découvrir de l'intérieur, et il faut se brancher, encore une fois, sur Dieu, de façon tout à fait irrationnelle, de façon absolument anti-intellectuelle. Et les auteurs du Nouvel Âge disent qu'il faut favoriser les altérations de la conscience. Il faut que la conscience soit dans un état altéré, modifié, changé. Des contacts répétés, je cite toujours cet auteur à la page 257, des contacts répétés avec le domaine transpersonnel peuvent avoir un impact profond sur l'individu. Ces contacts tendent à dissoudre la vision étroite et limitée caractérisant l'occidental moyen et à lui faire percevoir les problèmes de la vie quotidienne en fonction d'une perspective cosmique. Voilà ce qu'il faut arriver à atteindre. Une perspective cosmique. Vous avez compris que nous étions mal partis, nous les pauvres occidentaux moyens, parce que nous avions une vision étroite et limitée. Si nous arrivons à nous affranchir de cette étroitesse, de ces limites, nous aurons une vision donc large et illimitée. Et là, nous accéderons au divin. Cette façon de faire, bien sûr, utilise des techniques, et je vais vous en donner une seulement, il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner une, c'est ce qu'on appelle précisément la psychologie transpersonnelle. Ça semble un nom un petit peu barbare, mais que vous allez tout de suite comprendre. Il y a le mot « personne », « personnel ». Il faut s'affranchir des limites de la personne. Si vous voulez accéder à une conscience cosmique, c'est-à-dire si vous voulez presque fusionner avec le cosmos, et c'est ça leur ambition, si vous voulez quitter la nature humaine, qu'est-ce qu'il faut ? Bien, il faut faire voler en éclats l'enveloppe qui constitue votre personne. Alors on va utiliser des moyens, des trucs psychologiques pour essayer de s'affranchir des limites de la personne et dépasser. Non, c'est ça, transpersonnel, c'est-à-dire au fond, traverser ces limites et accéder à autre chose. Vous devinez tout de même qu'est-ce qu'il y a comme ambition derrière. Il n'est quand même pas ordinaire, il n'est pas courant que l'on veuille ainsi s'affranchir de la nature humaine pour accéder à une conscience cosmique, c'est-à-dire au fond atteindre un certain état d'infini. Parce que c'est ça la conscience cosmique, n'est-ce pas ? C'est arriver à être, au lieu d'être limité et fini, c'est devenir infini. Moi, je connais un être infini, et vous aussi, vous le connaissez, mais ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Mais n'anticipons pas, avançons pas à pas. Cet anti-intellectualisme, donc, existe chez les gens du Nouvel Âge. Ils veulent effectivement faire disparaître l'intelligence trop limitée, trop bornée. Il faut arriver à un état de conscience complètement nouveau. Et voici ce que l'on vous dit. Le dénominateur commun de ce groupe de phénomènes très riches et très variés est le suivant. Ces phénomènes, ce sont toutes les expériences auxquelles on se livre pour sortir du fonctionnement normal de l'intelligence. Le dénominateur commun de ce groupe de phénomènes très riches et très variés est le suivant. L'individu a le sentiment que sa conscience s'étend bien au-delà des limites habituelles de sa personne, ainsi que de celles du temps et de l'espace. Dans les états de conscience ordinaires, un homme existe dans les limites de son corps, et oui, ne vont pas fusionner avec autre chose. Et sa perception de l'environnement est limitée par la portée de ses organes sensoriels. Sa perception interne, sa perception externe sont toutes deux soumises à des limitations spécifiques. Dans les expériences qu'ils appellent transpersonnelles, eh bien, on arrive à faire voler en éclats toutes ces limites. Il est donc permis d'avancer sur la base de ce qui précède, dit Groff toujours, que les expériences transpersonnelles impliquent une expansion ou une extension de la conscience au-delà des limites habituelles de la personne, au-delà des limitations du temps et de l'espace. au-delà de la personne, donc accéder à une espèce d'infini, au-delà des limites de l'espace. Vous êtes, vous, à une place précise, vous ne pouvez pas être, vous n'avez pas le don de bilocation, vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous êtes à votre place et pas ailleurs. Vous êtes limité dans l'espace. Pour les gens du Nouvel Âge, il faut transcender, il faut dépasser l'espace, c'est-à-dire donc accéder à une espèce d'infini dans l'espace, être partout. Et de fait, il y a un être qui est ainsi, mais ça n'est pas l'homme. De même, vous êtes dans un temps, vous n'y pouvez rien, il est 4 heures, et oui déjà. Et vous ne pouvez pas être à 5 heures, bien que vous en ayez envie, parce qu'au moins ça sera fini, et vous ne pouvez plus être à l'heure du repas à midi. Non, c'est fini. Il est 4 heures, vous êtes limité dans le temps. Et ils veulent, eux, s'affranchir du temps. Et de fait, il y a un être qui dépasse, qui est hors du temps, qui est éternel. Mais cet être, encore une fois, ce n'est pas l'homme. Je vous donne maintenant deux petites citations qui vont vous montrer dans quel état les gens du Nouvel Âge arrivent à mettre leur patient, cobaye, victime, gogo, comme vous voudrez. C'est l'histoire tragique d'un médecin qui revient des Indes. Ne croyez pas qu'il entre dans cet état dit transpersonnel de façon naturelle. On lui a injecté une substance hallucinogène, le LSD, et une dose pas banale, je crois 250 ou 300 microgrammes. Enfin, je ne vous donne pas ces chiffres pour que vous essayiez ce soir chez vous. Ça doit rester théorique, hein. Je vous demande d'éviter les travaux pratiques. À ce moment, dit-il, alors il revient des Indes, il est là avec une forte dose de cette drogue. Il est donc dans un état de conscience altéré. Il est évident que son intelligence est complètement court-circuitée. Il ne peut plus se servir vraiment de son intelligence. Il va accéder au divin. Il n'y accède pas tout de suite, pas directement. Il va d'abord accéder à un sentiment de plénitude infinie. Lui qui était un pauvre petit toubib des États-Unis, il va se trouver brusquement projeté, catapulté dans le sous-continent indien. Il faudra dire que je lis ça à l'abbé Laroche, ça l'intéressera. Il va se dire, moi, je deviens l'Inde, je deviens le peuple indien. Je vous lis ça, c'est extraordinaire, c'est un cas évidemment d'hallucination, mais pour les gens du Nouvel Âge qui écrivent des bouquins extrêmement sérieux là-dessus, c'est une façon de quitter l'enveloppe corporelle, c'est une façon d'accéder à un statut divin, puisque à ce moment-là, on n'est plus limité à sa personne, on devient une multitude de personnes. Voici ce que écrit ce médecin. « À ce moment, je fus submergé de souvenirs de mon voyage en Inde. Je ressentis à nouveau l'émotion profonde qui m'avait étreint face à la diversité incroyable des modes d'existence caractérisant ce pays. » De la misère inimaginable à la beauté intemporelle. La nature de mon expérience se modifia, sans même que je le réalise. Je n'étais plus un visiteur ni un observateur. Je m'étais véritablement identifié à ce que je percevais. Bientôt, la portée de mon expérience dépassa l'étendue de mes souvenirs personnels relatifs à l'Inde. Je devenais le peuple indien. Aussi inimaginable que cela paraisse dans l'état de conscience ordinaire, j'éprouvais le sentiment d'être un énorme organisme dont les ramifications et les composants étaient les millions d'individus habitant le sous-continent indien. J'étais une immense entité consciente unique, j'étais la population indienne. Évidemment, vous qui êtes là, bien calé sur votre banc et normalement constitué, vous savez qu'il existe des maisons spécialisées, non loin de monter, pour recevoir ce genre de personnes. Vous préconiseriez quoi? L'hydrothérapie froide, la douche. Oui, vous avez raison, c'est un réflexe normal, sain. Mais pour les gens du Nouvel Âge, non, c'est ainsi qu'on se branche sur Dieu et qu'on devient soi-même, d'une certaine façon, Dieu. Il propose, alors parce qu'évidemment le LSD n'étant quand même pas en vente à la Migros, je veux dire c'est pas en vente courante, tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de voyage, il faut trouver un autre moyen. un autre moyen, et il a mis au point quelque chose, alors là, qui concilie, comme ils le disent, des techniques empruntées aux religions de l'Orient. Ça peut être des techniques yogiques, ça peut être aussi, alors du côté du vaudou, du côté aussi des trans chamaniques, et puis des techniques modernes, scientifiques, qui sont empruntées à la psychologie moderne. Il arrive à ce qu'il appelle, dans un terme un petit peu barbare, la pneumocatharsis, c'est-à-dire une espèce d'état complètement étrange, où la conscience est complètement modifiée, mais là, sans injection de drogue. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, ce que les drogués appellent le voyage, sans être obligé de prendre le ticket, le billet, à savoir la seringue de LSD. Là, on peut avoir. Alors, voici comment ça se passe. Les personnes sensibles dans l'assistance peuvent se retirer. C'est la partie la plus spéciale du programme. Surtout si vous avez déjeuné et bien déjeuné, évitez. Alors là, vous pouvez vous retirer. On vous rappellera quand c'est fini. Voici les conditions dans lesquelles ce fou, parce qu'il faut l'appeler par son nom, met les gens pour les altérer, les modifier psychiquement et leur faire croire qu'ils peuvent accéder au divin, qu'ils peuvent devenir, ah oui, il faut prononcer le mot, devenir comme des dieux. L'environnement, donc dans ce genre de session, de stage, l'environnement revêt une importance capitale. La pièce, parce qu'on enferme les gens, la pièce doit être assez grande pour permettre à la moitié des participants de s'allonger sans se gêner les uns les autres. Elle doit être isolée de toute influence externe perturbante et située dans un lieu permettant la production des bruits les plus violents. Et oui, ils vont hurler. Il doit être possible d'y diffuser de la musique sans limitation de volume. Et chaque participant doit disposer d'une liberté vocale totale. Je ne fais pas de démonstration parce que nous sommes dans une chapelle, mais vous pourrez vous essayer à la sortie. Le sol, alors c'est là qu'on s'aperçoit que les gens sont quand même plongés dans un état étrange. On est obligé de s'entourer de précautions parce qu'ils peuvent se faire mal. Le sol doit être capitonné ou recouvert de matelas et la pièce garnie d'une quantité suffisante de coussins d'oreillers. Il est conseillé de travailler dans une semi-obscurité ou de couvrir d'un bandeau les yeux des clients. Et oui, parce qu'on paye en plus pour aller là-dedans. Une lumière vive perturbe souvent l'expérience. Alors là, que les personnes sensibles veulent bien se retirer, des serviettes, sacs en plastique ou bassines comptent parmi les ustensiles indispensables, certains sujets risquant d'éprouver des nausées et de vomir. Les clients devraient se vêtir de manière confortable et informelle. Donc, ça ne sera jamais pour nous, monsieur le curé, on n'ira jamais là-dedans. Ensuite, il vaudrait mieux aussi de se libérer de tout ce qui risque d'entraver la respiration. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, ça devient extraordinaire, il doit y avoir une espèce de vestiaire fantastique à l'entrée de ce genre de salle. On dit qu'il faut enlever les lunettes, les verres de contact, les prothèses dentaires, les boucles d'oreilles pesantes, les bracelets, les colliers, les ceintures, les montres, pourvu qu'il n'y ait personne à l'entrée qui se serve. Alors, je ne sais pas, on doit dévisser les jambes de bois, enlever les crochets, enfin, tout, c'est fantastique. Peut-être même les moumoutes, les trucs. Enfin, bien. Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Mais parce qu'on va plonger les gens dans un état de transe absolument semblable aux transes que connaissent les chamans ou les transes que connaissent les gens qui pratiquent le vaudou. Et puis, je dirais aussi les transes que connaissent les gens qui s'adonne à la musique rock dans certaines boîtes, dont je n'ai pas à vous donner les adresses. La thérapie holotropique, c'est le nom de cette machine, là, de ce truc, déclenche des expériences spectaculaires, s'accompagnant d'un stress affectif et physique intense. Alors, c'est contre-indiqué aux gens qui souffrent de troubles cardiovasculaires graves. C'est tellement grave que c'est interdit aux femmes qui sont enceintes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'on va utiliser ce qu'ils appellent la technique d'hyperventilation, c'est-à-dire qu'on va faire respirer, haleter les gens jusqu'à ce qu'ils tombent en transe. Et moi, j'ai vu un reportage sur ça, c'est effectivement spectaculaire. Et les gens se mettent à pleurer, à crier, certains vomissent, c'est très réjouissant. Pourquoi ? Pour essayer, et ça devient, comment dirais-je, pathétique, et cela rappelle la vérité de cette phrase que vous connaissez, quand on veut faire l'ange, bien souvent on fait la bête, n'est-ce pas ? Quand on veut devenir comme des dieux, souvent on est même en dessous des bêtes. Ils sont là en train d'essayer de s'affranchir de leurs conditions humaines, d'oublier qu'ils sont des hommes, des personnes humaines qui ont une intelligence, qui ont une mémoire, qui ont une volonté qui est limitée, bien sûr, comme tous les hommes, qui sont fixés dans un temps et un espace particulier, et ils veulent essayer de planer au-dessus de cette existence humaine. Ce faisant, ils retrouvent ce que les hippies, et de fait le New Age est dans la droite ligne du mouvement hippie, ce que les hippies avaient déjà fait dans les années 60, fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis. Voici par exemple la déclaration d'un des leaders du mouvement hippie en 70, un peu 70, il faut que je traduise, excusez-moi. Ce bonhomme disait, il se présentait en toute simplicité comme le messie et le martyr et le grand prêtre du psychédélisme. Pour lui, le LSD fait partie des substances biochimiques sacramentelles, vous voyez, une espèce d'hostie d'un nouveau genre. Il est destiné à être utilisé comme l'orgue ou l'encens pour déclencher et guider une expérience religieuse profonde. Pour lui, le LSD permet de répondre aux 7 questions fondamentales portant sur la puissance suprême, la vie, l'être humain, la connaissance, la personne, l'affectivité, les fins dernières. Ça permet de provoquer en nous ces frissons sacrés dus à la résurrection fracassante du corps élargi à l'univers tout entier et désiré, dit-il, par certains gnostiques. Alors revenons un petit instant sur ce que nous disions. Ça, c'est évidemment la forme, si j'ose dire, stupéfiante ou chimiquement pure du psychédélisme ou du New Age. Mais il y a des formes diluées. Déjà, ici, on vous propose des expériences spirituelles sans nécessairement utiliser le LSD, uniquement par des techniques respiratoires, par des postures, des choses comme ça, qui rappellent ce que l'on fait dans les lamasseries tibétaines et autres lieux de spiritualité orientale. Et puis, il y a d'autres formes encore plus diluées, c'est celles que je vous citais, mais tout ça appartient au même mouvement, au même courant. Ce sont ces expériences que l'on trouve dans ces stages pour cadres jeunes et dynamiques, par définition. C'est-à-dire, on leur demande de revivre leur vie antérieure, on leur demande de penser qu'ils ne sont pas simplement des êtres limités à une période et dans un lieu donné, mais qu'ils ont eu des vies autrefois, dans d'autres temps, dans d'autres lieux, d'autres personnes. On leur demande de faire cela. Et on va utiliser ces techniques. Ici, celle que je vous ai lue, ce qu'on appelle l'hyperventilation, ou la thérapie holotropique, est une des techniques les plus spectaculaires. Elle est en général d'ailleurs couplée avec d'autres techniques accessoires ou subsidiaires. Musique, on peut mettre de la musique. Évidemment, je peux vous dire, ce n'est pas du grégorien qu'ils mettent, c'est autre chose. Tout cela, donc, se tient. Tout se tient comme ça. Je pense, donc, et c'est ma conclusion, que, au fond, Saint-Pédis peut nous fournir une clé tout à fait satisfaisante pour comprendre ce mouvement qu'est le New Age. On a, comme dans le cas du modernisme, parce que le New Age fait partie de toutes les hérésies, toutes les gnoses qui ont existé et qui peut-être existeront encore, il y a une phase dissolvante où l'on essaye de ruiner l'intelligence humaine et où l'on essaye d'interdire à cette intelligence d'entrer en rapport avec la révélation que Dieu nous a faite. Et puis il y a une phase donc coagulante, si on veut reprendre la terminologie maçonnique, solver et coagulant, une phase coagulante où on essaye de recréer, sur un nouveau modèle, selon un nouveau paradigme, une humanité qui n'est plus l'humanité que Dieu a voulu, qui n'est pas faite à l'image de Dieu. C'est une humanité tout à fait inédite, inouïe. C'est une humanité qui est, comment dirais-je, productrice de sa divinité. C'est une humanité qui se dit « nous sommes des dieux, point, c'est tout ». Alors, vous allez vous dire, mais là, peut-être que la belle Laurence s'emballe un peu, le repas au séminaire a peut-être été un petit peu arrosé, et il faudrait tout de même qu'il se calme. Alors, je vais vous lire deux choses, pour vous, vous voyez que je n'ai pas les 2 grammes ou 3 dans le sang que vous croyez. L'encyclique Pachendi disait ceci à propos de l'immanence vitale. Et je vais reprendre point par point 3 choses. Et vous verrez que ça s'applique, je crois, au New Age. Pachendi décrit le passage de l'agnosticisme à l'immanence vitale en ces termes. Naturel ou surnaturel, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, puisqu'il n'y a plus de théologie naturelle, l'intelligence n'est pas faite pour connaître l'existence de Dieu. Une fois cette théologie répudiée, tout accès à la révélation fermé par le rejet des motifs de crédibilité, qui plus est toute révélation extérieure entièrement abolie, c'est Saint Pédis qui parle, il est clair que cette explication donc de la religion, on ne doit pas la chercher hors de l'homme. C'est dans l'homme même qu'elle se trouve. Et comme la religion est une forme de vie, c'est dans la vie de l'homme. Or, tout phénomène vital a pour premier stimulant une nécessité, un besoin, pour première manifestation, ce mouvement du cœur appelé sentiment. Et termine Saint Pédis, il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime, engendré lui-même par le besoin du divin. Ce besoin, d'ailleurs, ne se trahissant que dans de certaines rencontres déterminées et favorables. Ce besoin n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Dans le principe, il gît au-dessous. Et selon un vocable emprunté de la philosophie moderne, il se trouve, il se situe, n'est-ce pas, ce besoin dans la subconscience, où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Alors je reprends. Premièrement, Saint Pédis dit « explication du phénomène religieux ». Il faut chercher cette explication en l'homme et non en une révélation extérieure. C'est ce que nous avons vu avec Stanislas Grof qui disait qu'il y a une opposition entre les adeptes du Verseau et puis ces religions dogmatiques et bornées où la divinité, disait-il, est une force extérieure aux êtres humains. Donc, le phénomène religieux ne doit pas être cherché du côté d'une force extérieure à l'être humain. C'est à chercher en l'homme. Deuxièmement, dit Saint Pédis, le phénomène religieux a pour premier stimulant un besoin. C'est un sentiment, un mouvement du cœur. Ça, c'est le sentiment religieux anti-intellectualiste du New Age. Le New Age ne veut pas qu'on se serve de l'intelligence, puisqu'au contraire, il va la bousiller, il va, n'est-ce pas, elle disjoncte, n'est-ce pas. Il y a un court-circuit, et il ne faut plus qu'il y ait une intelligence qui raisonne normalement. Mais c'est surtout le troisième point qui est intéressant. Le besoin du divin, dit Saint Pédis, ne se trahit que dans de certaines rencontres déterminées et favorables. Et ce besoin du divin a sa racine, non pas dans la conscience, mais dans la subconscience. Ces rencontres déterminées favorables ressemblent étrangement aux états de conscience modifiés ou altérés, où les limites habituelles de la personne humaine, dans un temps et dans un espace donné, sont transcendées, c'est-à-dire sont complètement renversées ici, grâce aux techniques qu'on a vues à l'instant. Dans ces états, le besoin du divin peut surgir du subconscient où il se tient. Et c'est vrai que pour les gens du New Age, il est évident que la divinité qui est cachée en chaque homme n'appartient pas du tout à la conscience, mais à une subconscience, c'est-à-dire une force mystérieuse de laquelle il faut faire surgir cette étincelle dans des circonstances un peu particulières comme l'hyperventilation, le LSD et autre chose. Donc, on a, semble-t-il, les éléments que Saint Pédis avait vus. Pour conclure, je citerai juste une phrase de Pigani qui vous montrera, alors là, en termes extrêmement clairs, et je n'ajouterai aucun commentaire, merci de ne pas soupirer, je vous lis exactement la profession de foi d'un journaliste qui croit au Nouvel Âge et qui dit exactement quel est l'objet de sa foi. Il y a trois choses à voir. Premièrement, l'univers tout entier est un être spirituel, vivant et conscient, dont nous faisons tous partie. Cette conscience, que l'on peut appeler Dieu ou du nom qui nous convient, est habitée par des aspects d'elle-même, c'est-à-dire des êtres conscients. L'univers n'est qu'une seule et même vibration, l'amour. C'est ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est tout et tout est Dieu. À partir de l'amour, les consciences vont être générées comme autant d'aspects vibratoires, comme autant d'ondes, comme autant de sources lumineuses. Ça, pour ceux qui s'y intéressent, c'est un clin d'œil à ce qu'on appelle la physique quantique. Deuxième chose, là il y a un mot à retenir. Les êtres humains se sont créés pour expérimenter l'amour, l'intelligence, la matière et l'action. Nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pour les gens du New Age, nous nous sommes créés nous-mêmes pour expérimenter l'amour. Nous sommes des éléments de cet univers divin. Nous nous sommes créés, nous sommes sortis. Et puis ensuite, il va falloir fusionner avec cet univers. C'est ce qu'il dit. Nous traversons une suite de vies incarnées et désincarnées, la métempsychose, la transmigration des âmes, la réincarnation, qui vont nous mener à la fusion finale avec la conscience unique, qui est l'identité sous-jacente de tout ce qui existe dans l'univers et qui est l'origine et la destinée de tous les êtres séparés. Troisièmement, et là, c'est un appel à la vigilance, dont je me permettrai de dire de façon un petit peu plus concrète ce qu'elle devrait être à mon sens. Appel à la vigilance parce que c'est là un ennemi de la foi catholique qui parle et il est bon que vous sachiez un petit peu ce que ces gens-là ont dans la tête. Il faut préparer le futur de l'humanité, préparer l'homme nouveau, un être dont on ne peut avoir aucune idée de ce qu'il sera, de la même manière qu'on ne soupçonne pas ce que peut être l'originalité de la conscience collective humaine. Notre mission à nous, les gens du New Age, est de ramener à un état de conscience d'avant la chute tous les êtres humains capables d'être réceptifs. Vous avez compris, n'est-ce pas? Nier le péché originel et par le fait même nier l'incarnation rédemptrice. Ramener les êtres humains à un état de conscience d'avant la chute. Et l'expression est ici exprès soulignée dans le texte, avant la chute. Ça peut se comprendre dans un sens un petit peu philosophique, simplement en se disant, bon ben, avant que l'esprit ne se soit incarné. Mais ça doit se comprendre aussi, eu égard à cette allusion à l'homme nouveau, tout à l'heure, avant la chute originelle. Peu à peu, cette nouvelle conscience s'infiltrera dans les activités quotidiennes des hommes, c'est ce que nous avons vu au début. Et de plus en plus, les cellules humaines individuelles prendront conscience de ce qui se passe, le changement s'accélérera à une vitesse exponentielle. Vigilance. Vigilance parce que si ces gens-là ont ce genre de projet, ils seraient... Comment qualifier cette attitude? C'est inqualifiable par définition. Il serait, prenons un euphémisme, il serait bien téméraire de ne rien faire, d'attendre que ça se passe. Attendre que ça se passe, ça veut dire attendre que nous soyons tous laminés et broyés par ce genre de philosophie, ou sinon nous, nos enfants, ou sinon nos enfants, nos amis. Non, il faut réagir. Cette réaction, elle doit être dans un premier temps, au niveau le plus humble, intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut être au courant. Il ne faut pas vivre dans une espèce d'ignorance confortable, d'illusion douillette. Là, on est au chaud et on ne s'inquiète pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a des dangers. Il faut être attentif, à bien repérer les buts, voir non seulement les buts avoués, mais aussi bien voir quelles sont les réalisations inavouables de ces buts avoués. Ces réalisations inavouables, c'est-à-dire comment au quotidien on essaie de faire des gens des adeptes du New Age, sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le sachent. Comment, par certaines musiques, certains programmes, certaines lectures, certaines techniques, soi-disant certaines thérapies, on essaie petit à petit de les influencer. Il nous faut prendre, et alors là, nous passons du plan intellectuel au plan moral, il nous faut prendre l'exact contre-pied de ce que les gens du New Age préconisent. Vous avez vu dans cette charte du New Age, il leur faut des êtres souples, flexibles. J'espère que vous n'êtes pas souples, flexibles. Je veux dire par là que vous n'êtes pas caoutchouteux, que votre conscience n'est pas élastique. Je veux dire par là que vous n'avez pas une foi à géométrie variable, que vous êtes catholique pur et dur ici, et puis catholique ailleurs, au bureau, au travail, en famille. Non, il nous faut avoir des principes, et ces principes sont intangibles. Ça n'est pas les principes qui doivent s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter aux principes. Je veux dire par là que ça n'est pas à nous de mettre à notre portée les dogmes, c'est à nous de nous hisser à la hauteur des mystères que Dieu a bien voulu nous révéler. Et de fait, c'est une grande exigence que de se hisser ainsi. Je veux dire en un mot que nous n'avons pas à chercher à ravaler le révélé. Ce qui est révélé ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas à le faire baisser, à le mettre à notre portée. Que font les modernistes? À longueur de temps, c'est cela. Ils triturent, ils malaxent, n'est-ce pas, comme de la pâte à modeler les dogmes. Mais les dogmes ne sont pas de la pâte à modeler. Ça n'a pas cette plasticité. Si c'est ainsi, ça n'est plus une règle. Monsieur vient nous parler hier des canons. Les canons, ce sont des règles. Et les règles, ça ne se tord pas. Ça ne se modifie pas au gré des caprices, des passions, encore moins des vices. C'est nous qui devons nous régler sur la règle. Mais la règle reste intangible. Donc là, effort à la fois intellectuel et moral pour être en face de ce danger, en face de ce péril, des combattants extrêmement efficaces. Nous ne pouvons pas opposer une morale opportuniste ou une connaissance de notre religion fantaisiste à ces attaques. Dernière chose, et là c'est le point le plus important, c'est une réaction spirituelle. Nous nous doutons bien que, lorsque nous lisons Pigani, qui nous propose de retrouver un état de conscience d'avant la chute originelle, nous n'avons pas là affaire à un simple journaliste français. Je sais bien que les Français sont terribles, mais enfin quand même, il y a autre chose là. C'est plus qu'un Français, c'est plus qu'un journaliste que ce Pigani. C'est quelqu'un qui se fait objectivement l'écho d'un cri que l'on a entendu dès la Genèse. C'est quelqu'un qui est là le reflet d'une tentation et même d'une subversion qui a été effectuée au moment de la Genèse. Donc, derrière ce pauvre journaliste français, il y a toute la rage du démon, il y a toute la haine de Satan pour les hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, c'est-à-dire ayant une intelligence et une volonté, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire participant de la vie divine par la grâce. Donc, au plan spirituel, soyons là aussi, non pas tièdes, non pas médiocres. Nous vivons à une période où la médiocrité est interdite. Il est interdit d'être médiocre aujourd'hui. Nous vivons à une période où la tiédeur est prohibée. Il nous faut être absolument fervents, ardents, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête... solennité du rosaire, sachons prendre cette arme dont le père Vallée, je crois, disait, c'était une arme à 150 coups. C'est intéressant, hein? 150. Est-ce que vous prenez ces munitions, vous les avez là, faites-vous servir, si vous n'avez pas perçu votre pactage, allez donc voir l'abbé Épinay, monsieur l'abbé Marais, ils vous donneront ce qu'il faut. La cible, je vous l'ai montrée, maintenant il vous faut les munitions, vous vous adressez à l'arsenal. Voilà. Nous allons réciter une petite prière pour terminer.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen.